Bonjour, ici Chantal Srivastava. Cette semaine, aux Années-Lumière, nous vous proposons une émission bien spéciale, une production dont nous sommes très, très fiers, puisqu'elle vient de remporter le premier prix dans la catégorie documentaire radio de l'Association canadienne des rédacteurs scientifiques. Cette émission a tout d'abord été présentée le 2 mars 2008 pour souligner le 400e anniversaire de la ville de Québec. Voici donc, en rappel, La science en Nouvelle-France avec Yannick Villedieu.
Les Années-Lumière, édition du 2 mars 1608. En marge du 400e anniversaire de la Fondation de Québec, voici une émission spéciale sur la science en Nouvelle-France. Bonjour, ici Yannick Villedieu d'Équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition spéciale et même très spéciale que celle d'aujourd'hui. Spéciale d'abord parce que l'indicatif musical a été changé, c'est un indicatif de circonstance. Spéciale par son thème, la science en Nouvelle-France et la science à l'époque de la Nouvelle-France. Un thème qu'on n'aborde pas souvent mais qui pourtant ne manque ni de richesse ni de surprise. On va le voir, vous allez le voir pendant toutes ces 2 heures. Spéciale aussi cette émission par sa fabrication. Nous l'avons préparée en liaison avec nos collègues de l'émission scientifique La Tête au Carré de Radio France, dont l'animateur est en studio à Paris. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Yannick Villedieu.
Alors spéciale aussi cette émission parce qu'on a la participation de 3 experts invités. D'abord l'historien et éditeur Denis Vaugeois qui est dans notre studio du Parlement de Québec. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Parlement où vous avez siégé hein, comme député, comme ministre du Parti québécois, c'est dans les années
1976-1996.
Oui, c'est ça, donc vous êtes chez vous un peu là-bas. Il y a chez nous ici à Montréal en studio l'anthropologue Serge Bouchard, animateur aussi à Radio-Canada. Bonjour Serge.
Bonjour Yannick.
Et il y a notre historien des sciences et chroniqueur aux Années-Lumière, Yves Gingras, de l'Université du Québec à Montréal, mais qui est en studio, lui, à Strasbourg, dans l'Est de la France. Bonjour Yves.
Bonjour.
En sabbatique sur la choucroute, j'imagine.
Entre autres.
Et bien sûr, il y a mes collègues des Années-Lumière, ici en studio à Montréal. Étienne Leblanc, vous allez nous parler de cartes et cartographie.
Et oui, et surtout de ceux, en fait, qui ont cartographié l'Amérique sans satellite, sans GPS, sans avion, à la sueur de leur front.
Sophie André-Blondin, vous ferez, vous, dans la médecine.
Oui, il y a 400 ans, les peuples autochtones tiraient leurs remèdes pour le corps et pour l'âme dans une pharmacie très grande surface, la forêt.
Oui, bien sûr. Chantal Srivastava, vous allez nous parler, vous, architecture, architecture civile.
Et nous irons là où tout a commencé, Yannick, à la Place Royale à Québec, où je vous ferai visiter la maison urbaine d'antan.
Tout ça et plus encore dans ces 2 heures consacrées à la science en Nouvelle-France. Alors, je vais tout de suite à Paris, à mon collègue Mathieu Vidard, animateur de l'émission La Tête au Carré sur Radio France, une émission de science quotidienne, alors que la nôtre est hebdomadaire. Bravo Mathieu.
On fait ce qu'on peut.
Oui, qu'est-ce que vous racontez à vos auditeurs chaque jour dans votre émission?
Alors, c'est sur France Inter à 14h. C'est un magazine d'actualité scientifique qui traite vraiment de toutes les disciplines scientifiques, des sciences dures aux sciences humaines, en passant même par la philosophie. On ne s'interdit rien pour proposer un aperçu éclectique de la science à travers différents rendez-vous, un dossier central avec un invité, des reportages, une revue de presse. Donc, vous voyez que notre émission est très cousine, Yannick.
Oui, oui, 1 heure par jour. Et la science en Nouvelle-France, c'est un sujet qui vous accroche, vu de l'ancienne France, si je peux me permettre?
Ben, je suis très heureux, moi, de participer à cette collaboration avec vos Années-Lumière, parce que c'est vrai que ce sont les racines communes de l'histoire de nos pays qu'on peut redécouvrir par le biais des sciences qui nous passionnent donc de chaque côté de l'Atlantique. C'est cette occasion de voir comment Québec est né, dans quelles conditions se sont effectués les échanges entre nos continents avec ces génies de l'époque hein, qui nous ont permis de bénéficier de leurs observations. Ah ouais, ouais. Donc c'est une très belle aventure maritime, scientifique qu'on va vivre ensemble. Un vrai roman de Jules Verne.
Oh, oui, c'est une rencontre donc, entre vous et nous, entre donc, France Inter et Radio-Canada. C'est une première, hein, la tête au carré des Années-Lumière. On va donc procéder, Mathieu, bien sûr, à un échange de cadeaux. Mais je vous préviens, on ne vous donnera pas des pots de castor contre de la verroterie. On a déjà donné ces c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce que vous allez nous offrir, Mathieu, dans les deux heures d'émission? Trois reportages.
Voilà, on va illustrer donc la science en Europe et en Nouvelle-France pour replonger donc au cœur d'abord de l'astronomie du XVIIe avec le génial Galilée, son utilisation de la lunette astronomique. Ensuite, on partira pour des traversées historiques de l'Atlantique à bord des navires qui ont été les premiers à accoster vos côtes avec l'amiral François Bélec que j'ai rencontré au musée de la Marine à Paris. Et puis enfin, je vous emmènerai dans les jardins du musée de l'Homme avec Catherine Vadon qui est maître de conférence. Elle nous fera revivre la grande épopée des échanges botaniques avec les plantes qui ont été rapportées dans les jardins du roi.
Et on commence tout de suite, Mathieu, donc avec le premier de ces trois reportages. Québec est fondé en 1608, c'est à peu près à la même époque où Galilée commence va vraiment changer l'histoire de la science. C'est en Italie que ça se passe et non pas à Québec. Et donc Galileo Galilei, le fameux Galilée, change la face, mais pas du monde, mais en tout cas presque de l'univers, Mathieu.
Oui, c'est vrai Yannick, avec un an plus tard, donc en 1609, Galilée, qui a bénéficié de l'invention d'un nouveau télescope par les Hollandais, a réalisé des applications scientifiques en commençant à construire ses propres télescopes qui étaient totalement différents de ceux des Pays-Bas. Son télescope grossissait 20 fois, ce qui lui a permis de faire des découvertes fondamentales, ce qui va l'entraîner d'ailleurs plus tard à être condamné par l'Inquisition. Et j'ai rencontré pour vous la physicienne Françoise Balibar, qui est spécialiste de Galilée. Nous nous sommes donné rendez-vous au musée des arts et métiers à Paris, où se trouve la réplique de la lunette de Galilée.
La légende veut que Galilée ait acheté sur le marché à Venise, auprès de colporteurs hollandais, un gadget qui était une lunette qui permettait de voir plus loin. Donc les gens en général se regardaient d'une fenêtre à l'autre, etc., avec cet instrument. Lui a compris qu'il y avait dans cet instrument une lentille à une extrémité et une lentille à l'autre extrémité, qui sont de nature telle que finalement les objets semblent rapprochés. Et il a eu l'idée de pointer sa lunette vers le ciel. Et alors là, il en fait le récit dans Le Message des étoiles. Et c'est absolument stupéfiant parce que c'est quasiment un carnet d'observation, un carnet de laboratoire qu'il livre. Alors en janvier 1610, justement, il pointe sa lunette vers la lune. La lune était alors en croissant. Dans la partie obscure, il voit des points lumineux qui grossissent au point de rejoindre le bord plus ou moins crénelé, qui fait la limite entre la zone d'ombre et la zone lumineuse. La théorie qu'il avait en tête et qui n'était pas bien établie était que la Terre n'était pas au centre du monde, comme on l'avait toujours enseigné. Donc, en voyant ces points sur la Lune, il comprend que ce sont des montagnes. Et ceci par analogie avec ce qui se passe sur la Terre, où le sommet des montagnes est éclairé par le soleil avant que le fond des vallées le soit. Il comprend que c'est ça qu'il voit. Alors, c'est révolutionnaire de dire ça. C'est révolutionnaire parce que si la Lune est de la même nature que la Terre, eh bien, en effet, la différence entre ciel et Terre s'estompe. Et l'idée que la Terre puisse se déplacer comme se déplacent les astres prend une certaine plausibilité. Or, ça, c'était justement la théorie de Copernic, la théorie dite héliocentrique, à savoir que le centre autour duquel tout tourne n'est pas la Terre, mais le Soleil. Alors, quand le livre de Copernic paraît, avec une préface d'un de ses élèves très prudente, parce que évidemment ceci allait contre la doctrine de l'Église, comme je vais le dire dans un instant, eh bien, ce n'est qu'une hypothèse présentée comme équivalente à l'hypothèse géocentrique, c'est-à-dire de la Terre au centre du monde.
Se io credo che le conclusioni dei saggi sono esatte, o almeno un po' esatte, se la Terra è veramente rotonda, se la sua circonferenza è veramente di 40.974 chilometri, se gira veramente in 23 ore 56 minuti come dico.
Pendant 20 ans, Galilée a enseigné le système géocentrique parce qu'il était professeur de mathématiques et à Padoue, qui est l'université de Venise, et il enseignait le système géocentrique. Alors, On peut s'étonner de ça, presque y voir une espèce de mauvaise foi, mais il était persuadé de la validité du système copernicien. Il n'était pas le seul. En fait, toute l'intelligentsia de l'époque l'était, y compris au sein de l'Église. Et c'est bien ce qui a été trompeur pour lui, c'est qu'il avait beaucoup de collègues et d'amis à l'intérieur de l'Église, dans la hiérarchie, qui étaient aussi convaincus que, en somme, si les calculs sont plus simples quand on reporte tout au centre du soleil, c'est qu'il y a quelque chose de vrai là-dessous, de quelque chose de réel. Kepler, qui lui est contemporain de Galilée, un peu plus jeune, il a 7 ans.
Astronome allemand,
était aussi absolument convaincu de la validité du système héliocentrique. Mais il pensait que ça devait rester à l'intérieur du monde scientifique et que de toute façon, il était ou inutile ou trop dangereux de dire ça autrement que dans le monde scientifique.
Divertez-moi, on rapportait que vous avez entretenu une correspondance assidue avec cet hérétique, ce Kepler, qui lui aussi a défendu le système de Copernic.
Galilée, levez-vous !
Kepler m'a souvent écrit, c'est vrai, mais je me suis contenté de réponses lapidaires. Et je n'ai pas lu son livre. Et je n'ai pas besoin d'un hérétique allemand pour apprécier l'élégance de la théorie héliocentrique.
Vous mentez ! Avouez que vous avez toujours été avec lui et qu'ensemble vous avez organisé une conspiration pour ébranler l'Église !
Mais je ne connaissais pas Kepler, je ne l'ai jamais rencontré.
Pourtant, vous lui avez offert une lunette !
Oui ! Pour qu'il vérifie l'existence des satellites de Jupiter, que certains de vos confrères contestaient. Kepler a confirmé mes observations. Où est le mal ?
Galilée, c'est très drôle, il publie le Sidérus Nensus, qui est donc le message ou le messager des étoiles, ça dépend des traductions, et en même temps, il envisageait d'affaire accompagner le livre d'un pif gadget, en somme, c'est-à-dire d'une lunette, pour que chacun puisse observer le ciel et voir, tout en lisant, ou plus exactement en lisant dans la journée et en regardant le ciel dans la nuit, de voir la véracité de ce qu'il disait. Mais c'est là qu'il a des difficultés avec la technologie, parce qu'il s'était fabriqué une lunette pour lui, il essaye de recommencer, et ça ne marchait pas très bien. D'abord, c'était très difficile, il polissait lui-même les lunettes, et puis de régler, etc. Et puis surtout, il n'a pas voulu comprendre, bien que Kepler se soit efforcé de le lui expliquer, que la lunette qu'il avait fabriquée était réglée à sa vue à lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul instrument, il y a la lunette plus l'œil par derrière, et l'œil n'est pas le même pour chacun. Donc au bout de 3 mois, Galilée arrive enfin à fabriquer une lunette satisfaisante, il avait passé la sienne au grand-duc. Kepler reçoit la lunette, constate que, comme il s'y attendait, il faut qu'il fasse des ajustements d'optique pour que lui puisse voir. Il voit, il est convaincu, etc. Il l'était déjà, à vrai dire. Mais ceux qui n'étaient pas convaincus d'avance comme Kepler, il y a eu une séance à Florence dans laquelle tous les grands pontifes de l'université de Florence ont voulu regarder dans la lunette que Galilée avait apportée en grande pompe, et ils n'ont rien vu. Alors, l'histoire les accuse d'être de mauvaise foi, mais il est beaucoup plus probable qu'ils n'avaient des yeux qui ne voyaient pas ce que Galilée voyait. Et c'est à partir de là, d'une certaine façon, que les choses ont mal tourné pour lui, parce que il avait la bénédiction du grand-duc, laquelle bénédiction a duré tant que le grand-duc n'a pas eu intérêt à le lâcher. Et il a eu intérêt à le lâcher quand la discussion étant passée du terrain scientifique au terrain de la contradiction avec les Écritures, eh bien, les choses sont remontées à Rome, chez le pape, etc. Et là, le grand-duc n'a pas pu le protéger. Il était bon chrétien. Et puis, de toute façon, la papauté était une puissance de la terre suffisamment forte pour faire peur même au grand-duc.
Moi, Galileo Galilei, j'ai écrit et fait imprimer un livre sans autorisation formelle dans lequel j'ai présenté l'idée que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil sous un jour exagérément favorable qui pouvait faire penser que je le croyais. Pour cela, j'ai été très justement jugé comme suspect d'hérésie. J'abjure. Je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ses erreurs. Je jure à l'avenir de ne plus dire ni écrire quoi que ce soit qui pourrait nourrir des soupçons similaires à mon encontre. Je le jure avec l'aide de Dieu et sur ses saints évangiles que je touche de mes mains.
Donc Galilée est jugé, 1633 par l'Inquisition. Et en fait, il va purger sa peine chez lui à Florence.
Alors, il obtient en somme d'être assigné à résidence dans une superbe villa qu'on peut voir à Arcetri, c'est dans les collines au-dessus de Florence. Ça a duré assez longtemps, de 1633 à 1655, je crois. Il a eu le temps d'écrire un second.
Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il, malgré donc son jugement et sa condamnation, il écrit quand même et il arrive à se faire publier, mais par le biais de la Hollande.
C'est ça. Alors, non seulement c'était extraordinaire qu'il arrive à écrire parce que il devient progressivement aveugle, et ensuite, chose qui redouble le côté extraordinaire, il a un de ses étudiants qui venait le voir très régulièrement, qui passe les feuillets du discours, qui est le grand livre qui fonde la mécanique mathématique, qui les fait sortir, feuillet par feuillet, sous le manteau, c'est vraiment le cas de le dire, et qui fait publier le tout en Hollande, et c'est comme ça que c'est devenu public.
Alors, c'était un reportage de Mathieu Vidard à Paris avec Françoise Balibar, qui est professeure émérite à l'université de Paris 7, Denis Diderot. Mathieu, qu'on va retrouver un peu plus tard en première heure. Je vais maintenant à Yves Gingras, historien, sociologue des sciences, Université du Québec à Montréal, chroniqueur aux Années Lumières, en studio à Strasbourg. Alors Yves, ce coup de lunette là, de Galilée en 1609-1610, coup de lunette vers le ciel, Madame Balibar a dit que c'était révolutionnaire. Est-ce que le mot est juste, vu avec l'œil de l'historien des sciences?
Oui, bien sûr, le mot est juste. C'est une transformation radicale. Il faut rappeler que jusque-là, la science se fait à l'œil nu. On observe avec des yeux. Là arrive un instrument, un artefact, fait de main d'homme, qui permet de voir des choses invisibles à l'œil nu. C'est ce qui fait que ça amène une transformation majeure, parce que tant qu'on observe la Lune à l'œil nu, on ne peut pas savoir si c'est une boule de cristal ou si elle a des montagnes. Il suffit du télescope pour transformer radicalement et à jamais notre vision du monde. Donc, c'est une coupure radicale dans l'histoire de la pensée.
Et l'autre histoire, ce qu'on voit très bien, ce qu'on entend dans le reportage, qu'on connaît très bien, c'est cet affrontement entre l'Église et la science, le premier affrontement peut-être. Est-ce que c'est un affrontement significatif?
Oh oui, c'est un affrontement crucial, parce que c'est l'affrontement de la science et de la religion. Encore là, jusque-là, la science et la religion allaient ensemble. Pourquoi? Parce que la science, c'était la science aristotélicienne, réinterprétée par Thomas d'Aquin, qui en a fait le thomisme, qui est la doctrine de l'Église. Donc la science allait main à main avec la religion. Avec Galilée, on a une coupure, parce que Galilée, c'est aussi le défenseur de l'atomisme. Or, selon l'Église, croire aux atomes est aussi inacceptable, parce que ça rend incompréhensible la transsubstantiation, qui est un dogme religieux fondamental. Et tous les atomistes de l'époque qui croyaient sous une forme ou une autre aux atomes, que ce soit Descartes ou Gassendi, avaient des problèmes avec l'Église qui rendaient inacceptable l'acceptation des atomes. Aujourd'hui, c'est une théorie acceptée. Donc, c'est avec Galilée que la science rencontre ses premiers obstacles, qui ne seront pas les derniers. On n'a qu'à penser à Darwin au 19e siècle. Mais oui, 1632, c'est la publication de son grand livre qui amène à sa condamnation en 1633.
Bien sûr,
et il meurt
sûr.
En 1642, après avoir fait paraître son deuxième grand livre en 1638, sous le manteau, comme on vient de le dire.
Et pourtant, comme il disait, elle tourne, bien sûr, l'heure. Alors, Yves Gingras, on s'en va maintenant du côté des cartes et de la cartographie. Ils l'ont fait, on l'a dit tout à l'heure, sans GPS, sans radar, sans avion. Ils ont changé à jamais leur perception du monde. Ce sont les explorateurs, donc, qui ont dessiné les contours et les reliefs de l'Amérique, qui l'ont fait à la sueur de leur front, c'est le cas de le dire, en utilisant des techniques très rustiques. C'est quand même une très, très belle histoire scientifique, et c'est ce que vous avez fouillé, Étienne Leblanc.
C'est une belle histoire, Yannick, parce que ce sont sur ces cartes que le mot « Amérique » nous est apparu pour la première fois. Mmh. Et ça va changer le monde à jamais. Et notre émission tombe bien cette semaine parce que la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal vient tout juste d'inaugurer une exposition qui raconte justement l'épopée fascinante de ceux qui ont cartographié l'Amérique. Et j'ai donc profité de cette exposition pour rencontrer le spécialiste qui a monté l'événement et qui a sorti des cartons ces beaux trésors de la Nouvelle-France, le cartothécaire Jean-François Palomino.
Les premiers qui ont cartographié l'Amérique, ça a été les navigateurs qui essayaient de découvrir un passage vers l'Asie. Alors, c'est un peu l'histoire de Christophe Colomb.
Oui, alors, l'Amérique n'existe pas sur les cartes à ce moment-là. Je crois que vous avez même une carte qui montre ça.
Oui, je peux vous la montrer.
Oui, aussi.
Ça, c'est la carte la plus ancienne de l'exposition. Elle date de 1493. C'est extrêmement difficile à lire comme carte. Mais donc, ça représente le monde. On a l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ouais. Et on n'a pas l'Amérique, évidemment. On est en 1493. C'est l'année où Christophe Colomb revient de son premier voyage en Amérique. Mais bon, lui-même, Colomb, ne sait pas que l'Amérique existe. Il se croit être en Inde. Et il rapporte des informations, mais pas suffisamment. Ça circule quand même relativement. On n'a pas Internet là, à l'époque. Là, ça va quand même assez lentement. Donc, ça va prendre un certain temps avant que l'information qui est rapportée par ces navigateurs, ces explorateurs comme Colomb, puis ses successeurs, ça va prendre un certain temps avant que ça soit intégré à la cartographie. Puis là, il va y avoir cette révolution, si on veut. Ça va être non seulement la découverte de l'Amérique, mais surtout la naissance de l'Amérique dans la conscience européenne. Et puis ça, c'est formidable parce que ça apparaît sur une carte géographique. C'est une reproduction d'un original qui est aux États-Unis, à la Library of Congress, et on le voit clairement. On a quelque chose de nouveau sur cette carte. Mais c'est un continent, une barrière là, qui est là, et c'est en plus un continent qui est nommé America. En hommage à Amerigo Vespucci. Okay. Donc, on a la carte ici. Et même sur la carte, vous avez Ptolémée qui est en haut, qui est le père de la cartographie ou de la géographie, si on veut. Et puis, Amerigo Vespucci, grâce à qui on a pu savoir que l'Amérique existait.
Ils l'ont fait sans satellite, sans hélicoptère et sans photo. Les yeux au sol, sans perspective aérienne, ils ont assemblé les nombreuses pièces d'un casse-tête complexe avec les techniques du bord, des techniques rustiques qui ont fait avancer la science. Jean-François Palomino.
Par exemple, devant nous, eh bien, c'est un peu en quelque sorte les ancêtres du GPS, donc des instruments qui permettaient aux navigateurs, puis ensuite aux explorateurs sur le continent de se situer du mieux qu'ils le pouvaient. Donc, on a par exemple une arbalestrée, c'est une grande tige de bois qui permettait de viser à la fois l'horizon et puis une étoile. Souvent, c'était l'étoile polaire la nuit ou bien le soleil à midi. Et donc, en mesurant l'angle entre l'étoile et l'horizon, on parvenait à connaître la latitude, comme l'astrolabe aussi qu'on a dans la vitrine. Et puis, on a également une boussole. Et puis, de l'autre côté, c'était un renard ou une table de loch, donc qui permettait aux navigateurs de consigner les déplacements du navire sur l'océan. Donc, on va dans telle direction pendant tant de temps, mais là, c'était indiqué sur ce tableau de bord. Et puis, il y a eu une évolution ensuite, après l'astrolabe ou l'arbalète, il y a eu le sextant, l'octant, le quartier de Davis. Donc, tous ces instruments qui ont évolué, en fait, fonctionnaient un peu sur le même principe de l'observation des astres pour pouvoir ensuite mieux se positionner sur Terre. Donc, c'est une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que c'est vraiment en observant le ciel qu'on arrivait vraiment à se localiser sur Terre.
Un seul problème, aucun instrument n'indique la longitude, une mesure qui permet de se situer par rapport à un point de référence. Le méridien de Greenwich, apparu au 19e siècle seulement, remplit aujourd'hui cette fonction.
C'est un très beau problème, en fait, qui a occupé les savants pendant presque des siècles, plusieurs décennies au moins. Au 17e siècle, par contre, on avait trouvé quelques techniques pour essayer de mesurer des longitudes. Puis, on en a un bel exemple ici dans l'exposition. C'est un certain Jean Déhay qui est arrivé en Nouvelle-France en 1685. Il était membre de l'Académie des sciences. Il a été envoyé par l'Académie pour cartographier le fleuve Saint-Laurent. Et donc, c'est ce qu'il va faire, mais ce qu'il va faire également, c'est mesurer la longitude de Québec par l'observation d'une éclipse de lune. En observant l'éclipse et en mesurant l'heure à laquelle l'éclipse se produit, il a pu comparer cette heure avec celle où l'éclipse s'est produite en France, à Paris.
Une éclipse de lune comme on a eu la semaine dernière.
Exactement, tout à fait. Et puis, donc, en calculant la différence d'heure entre ces deux observations, bien, en fait, on obtient, en quelque sorte, le principe du décalage horaire. Et puis, le principe du décalage horaire, bien, c'est également, c'est analogue au principe de la longitude. Donc, c'était donc une des premières mesures relativement précises de Québec par Jean Dehaye en 1685, grâce à une éclipse de lune.
Mais il n'y a pas que la science. Les explorateurs n'auraient jamais pu cartographier l'Amérique sans l'aide de ceux qui habitent le territoire depuis des millénaires, les Amérindiens. Des cartes précieuses tracées à la volée sur le sol ou sur de l'écorce que les explorateurs essaient de copier.
Là, ici, on a un exemple d'une carte dessinée par un Amérindien du nom de Oshagache, qui a été engagé par un explorateur français, La Vérendrye. Puis ça, c'est une constante. Les meilleurs cartographes, les meilleurs explorateurs, c'était ceux qui savaient trouver les meilleurs guides amérindiens. Et puis donc, cette carte-là montre la carte d'Oshagache, qui a été recopiée par les explorateurs français, ensuite envoyée à Québec, où elle a été encore recopiée. Puis de Québec, elle a été envoyée en France ou recopiée par un autre cartographe. Donc, il y avait toute une chaîne de personnes, mais à l'origine, c'était vraiment une carte faite par un Amérindien.
Au fil du temps, la carte de la Terra Incognita prend de la couleur, s'enrichit de noms et de détails et recule tranquillement, mais sûrement, jusqu'au Pacifique. L'Amérique existe bel et bien. Désormais, le monde ne sera plus jamais le même.
Alors, c'était un reportage d'Étienne Leblanc sur les lieux de l'exposition « Ils ont cartographié l'Amérique » qui est à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. Étienne qui interviewait le commissaire de l'exposition Jean-François Palomino. Et puis, il faut dire qu'il y a un livre qui accompagne cette exposition qui s'appelle « La mesure d'un continent ». C'est aux éditions du Septentrion. Je vais à vous, Denis Vaugeois, en studio au Parlement de Québec, historien, éditeur du Septentrion, Denis Vaugeois. Le reportage nous montre que ce n'était pas facile de faire des cartes. C'était vraiment quelque chose qui était fait, si vous me permettez l'expression, Denis, à mitaine.
À la mitaine, mais il y a des instruments aussi. Jean-François Palomino en présente quelques-uns. Mais il faut dire que parmi les premiers parmi qui se déplacent sur le continent, il y a les missionnaires jésuites. Et on apprend que les missionnaires jésuites, les jésuites, dans leur cours, dans leur formation, étaient initiés à la cartographie.
Oui, il faut dire que les missionnaires avaient l'art de trouver les bonnes positions dans le paysage.
Oui, mais puis les militaires également ont une formation d'ingénieurs. Donc, ces gens-là sont préparés. Mais il reste qu'ils sont dans un territoire inconnu. Oui. Et puis, essayons seulement d'imaginer là, qu'on fait le tour, mettons, du lac Ontario, du lac supérieur, puis on porte ça sur une carte. C'est quand même assez incroyable.
Et ce qui est étonnant, c'est que les cartes souvent étaient faites presque par ouï-dire. Il y avait des cartographes de cabinet qui disaient, mais j'ai entendu, il y a telle affaire à tel endroit, un lac plus ou moins grand, et eux faisaient ça, mettaient ça sur papier.
Oui, mais le ouï-dire là, prenait des années. Parce que parmi les champions là, de ces cartographes de cabinet, il y a eu les Sanson d'abord, il y a les Delisle. On a bien étudié le cas des Delisle. Les Delisle ont même des espèces d'espions qui attendent les navires qui reviennent d'Amérique. Et là, on s'informe, est-ce que un tel a voyagé, avez-vous un rapport de voyage, avez-vous quelque chose qu'on prend? Et là, les gens disent, ils prennent les textes et ils disent, un tel est parti tel endroit, tel jour, il est allé à tel endroit, ça lui a pris tant de temps, il a voyagé en canot ou à pied, etc. Là, ils établissent une distance approximative. Et à force d'accumuler comme ça des récits de voyage, ils en viennent à envisager, à évaluer une distance approximative. Et rendez-vous compte, là, les cartes de Delisle sont faites comme ça, là, à partir des récits de voyage. Ou encore, par exemple, Delisle, à un moment donné, il apprend que d'Iberville est à Paris. Alors, il dit à d'Iberville, il faut que je vous voie. Regardez là, comment j'ai représenté l'embouchure du Mississippi. Est-ce que ça a du bon sens, ce que j'ai fait là?
C'est et fabuleux,
D'Iberville comprend pour un peu un aventurier. Et lui aussi a ses connaissances, sa science. Puis il a pris des lectures de ses positions. Ces gens-là sont extraordinaires.
Oui, dites-moi, Denis Vaugeois, un mot tout à fait en conclusion de cette petite partie. La carte la plus importante de cette époque, au point de vue de la science, mais au point de vue aussi, je pense, de la politique, ça serait laquelle?
Ah ben, on a chacun notre point de vue là-dessus.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup, il y a une carte de Gallatin qui présente les Indiens là, en 1600 et en 1800. Mais disons que pour l'avenir politique du continent, pour moi, c'est une carte de 1718 de Guillaume de Lille qui présente le Mississippi et l'embouchure du Mississippi. Et ça, c'est assez bien expliqué dans l'ouvrage. Et ça, ça change l'histoire du continent. Parce que les négociateurs du traité de Paris de 63 ou de 83 vont appuyer leurs revendications, leurs démarches et leurs ruses sur la connaissance que leur donne cette carte.
Merci, Denis, à Québec. Et justement, quand on parle de carte, on parle de voyages, des voyages qui permettent aussi d'améliorer les cartes, vous venez de le dire. Puis les voyages, à cette époque, c'est d'abord sur la mer qu'on va les faire. Alors Mathieu Vidard, à Paris, je me retourne vers vous à nouveau pour ces expéditions. Il faut des navires et des instruments de navigation.
En effet, Yannick, hein, puisqu'à l'époque des expéditions de Champlain, le voyage entre l'Europe et la Nouvelle-France obéit à de nombreuses contraintes, tant techniques que naturelles. Alors d'abord, on peut dire que ce sont les Portugais qui, dès le 15e siècle, ont été à l'origine de l'art occidental de la navigation en haute mer. La navigation transatlantique, au départ, était réalisée en fonction de la vitesse, calculée empiriquement avec les caps suivis. Et vous imaginez que les erreurs d'appréciation et les avaries étaient nombreuses à l'approche des côtes canadiennes. Alors Yannick, j'ai rencontré l'amiral François Bellec au Musée national de la Marine à Paris, juste en face de la Tour Eiffel. Il est spécialiste de la navigation à cette époque et il nous fait découvrir les instruments et les conditions de navigation sur l'Atlantique.
En fait, à cette époque-là, c'est simple. La navigation, c'était, on utilisait pour la première fois depuis la découverte de l'Amérique, et surtout depuis que les Portugais avaient commencé à faire le tour de l'Afrique, on avait découvert que l'étoile polaire pouvait donner la latitude en regardant sa hauteur au-dessus de l'horizon. Les bateaux traversaient l'Atlantique, tout à fait au pif, avec deux erreurs qui étaient gravissimes quand on naviguait, comme le faisait Champlain, à cette latitude-là. La première, c'était des courants que l'on ne connaissait pas, donc on devinait qu'il y avait des courants, mais on ne savait pas lesquels. Et puis ensuite, les très grosses anomalies magnétiques que l'on trouve à cette latitude, aux environs de Terre-Neuve, ce qui fait que les compas magnétiques étaient faux. Et ça faisait que lorsque les navigateurs pensaient traverser en faisant une route à l'ouest, ils s'apercevaient quand ils arrivaient à terre qu'ils n'avaient pas fait du tout une route à l'ouest. C'était un problème grave qu'on essayait de corriger par des tas de façons, en bidouillant un petit peu les latitudes, les échelles de latitude, pour essayer de tenir compte de cette erreur systématique, ce qui fait qu'on dessinait des cartes systématiquement fausses pour essayer de compenser les erreurs. Mais il faut reconnaître que la navigation transatlantique aux environs du Canada est beaucoup plus compliquée que celle de Christophe Colomb aux environs des Antilles. Il y a là-haut, quand je dis là-haut par rapport à Christophe Colomb, des anomalies qui jouaient un rôle important dans les erreurs de navigation, qui pouvaient être catastrophiques parce que la côte du Canada ou la côte européenne, c'est les rochers, les bancs de sable, la brume, fait que la navigation était extrêmement dangereuse.
Les hommes se demandent comment vous savez où on est, puisque depuis des jours, on a perdu la terre de vue. Je sais que vous vous repérez aux étoiles comme les morts le font. Mais je ne sais pas comment.
Tenez, prenez ce quadran. Visez l'étoile polaire. Depuis la plomb verticale. Ne bougez pas. Une erreur d'un degré et on peut dériver de 600 lieues. Qu'est-ce que vous disiez ?
28.
Parfait. Le 28e parallèle et nous le suivrons jusqu'à ce qu'on touche terre.
Quel type de bateaux, justement, ont été construits à l'époque pour traverser l'Atlantique ?
On utilisait à cette époque-là, en fait, le bateau standard, c'est-à-dire un bâtiment de commerce. Je dirais dérivé des bâtiments de pêche. Hein. En gros, dans l'Atlantique Nord, on travaillait d'après une tradition nordique, la cogue hanséatique, qui avait remplacé au Moyen-Âge les knorr vikings, qui étaient des bateaux construits par les vikings pour faire du commerce, et qui ont été remplacés par la cogue hanséatique, qui a été le liberty ship de l'époque. Ça a été une révolution, la cogue. C'était un bateau, c'était un espèce de sabot assez laid, marchant pas très bien, mais qui avait une capacité de transport considérable et qui était un bateau d'eau profonde qui a, la cogue a obligé à construire des quais alors que jusqu'à présent les Vikings s'échouaient sur les plages. Et ça a été là une des révolutions du commerce. Alors c'était des bateaux qui n'étaient pas énormes, hein, c'était des bateaux qui faisaient 20 mètres de long. Et pratiquement les bateaux transatlantiques, c'était des bateaux qui faisaient 300, 400, 500 tonneaux au maximum, qui faisaient 20, 30, 40 mètres. C'était des toutes petites choses qui se prenaient à l'Atlantique Nord, et chacun sait que l'Atlantique Nord, c'est une région extrêmement dangereuse, avec une météorologie très dure, et je crois qu'il faut admirer le courage et la détermination des navigateurs de cette époque.
Combien de temps ils mettaient justement pour traverser l'Atlantique ?
Pratiquement à cette latitude-là, ils mettaient, je dirais, un mois et demi, grosso modo, quoi. À cette époque-là, on naviguait pas n'importe quand. On partait quand le vent était plutôt dans le bon sens. Donc, en fait, les bateaux étaient soumis aux caprices du vent. On partait quand le vent était favorable. Quand le vent tombait, on s'arrêtait. Quand le vent devenait contraire, on faisait avec. Il y a eu une exception, c'était les galères. Mais les galères étaient des bateaux de beau temps en Méditerranée. Tous les autres bateaux, en particulier ceux de l'Atlantique Nord, bateaux à voile, étaient soumis au vent, étaient donc soumis à une énorme incertitude en matière de durée de voyage et en matière de journée de départ et de journée d'arrivée, bien sûr. La construction d'un bateau, c'était un truc simple. On construisait à cette époque sans plan. Tout était dans la tête du charpentier. Eh bien, il suffisait de s'installer n'importe où, d'avoir du bois pour pouvoir le couper, et un charpentier et son équipe fabriquaient un bateau, je dirais, n'importe où. Et d'une façon générale, d'ailleurs, tous les navigateurs qui sont allés dans des terres nouvelles ont très vite installé des chantiers navals et ont construit des bateaux sur place.
Est-ce que Samuel Champlain était le champion toute catégorie des traversées transatlantiques ?
Bah, oui, il en a fait beaucoup, et à cette époque-là, ça lui donnait une compétence qu'il a d'ailleurs utilisée en rédigeant un guide de navigation à partir de son expérience. Il est en particulier celui qui a le premier décrit le lock à plateau, inventé par un Anglais anonyme. Là, ce navigateur a une idée absolument géniale, qui a été de fixer une espèce de petite planchette lestée au bout d'un cordonnet très long, et de faire des nœuds tous les 120e de 1000 marins. Ça fait, mettons, à peu près 15 mètres. Hein. On jetait cette planchette à la mer, on laissait se dérouler cette cordelette et on retournait un petit sablier de 30 secondes, qui est la 120e partie de l'heure. Ce qui fait qu'au bout de 30 secondes, on arrêtait le système et on regardait combien de nœuds étaient passés. Ça permettait de savoir combien on avait fait de 1000 à l'heure. Et d'où la dénomination de l'unité de mesure des vitesses à la mer, le nœud. Le nœud qui est encore la vitesse des bateaux les plus modernes et les plus récents et des transatlantiques les plus puissants, bah c'est le nœud qui était sur une cordelette qui avait été imaginée au début du XVIIe siècle en Angleterre. Alors bien sûr, il y a eu aussi la mesure de la latitude, ça ce sont les Portugais qui ont inventé ça alors, sur la fin du XVe siècle, début du XVIe. Et puis après, le grand progrès a été l'invention de la carte de Mercator, c'est-à-dire le carroyage qui tient compte de la convergence des méridiens.
Alors le texte de Champlain auquel vous faisiez allusion, c'est le traité de marine et du devoir du bon marinier qu'il a rédigé. C'est une rétrospective finalement de son expérience canadienne.
Voilà, et c'est bien dans l'esprit de ces guides. Ils étaient assez nombreux, tous les pilotes qui avaient un ensemble d'expérience, et lui avait eu très grande expérience de navigation, mettaient par écrit ce qu'ils avaient observé, recopier des principes de navigation, les commenter et fabriquer comme cela des guides à l'intention de ces bons mariniers, de ces gens soucieux, ce qui n'était pas évident, de naviguer correctement sur mer, parce que le souci de savoir où on était n'était pas unanimement partagé. Des tas de navigateurs se souciaient très peu de savoir où ils étaient, et ça a duré même jusqu'au XVIIIe siècle, où beaucoup de grands théoriciens de la navigation se sont plaints du fait que la plupart des pilotes ne faisaient pas du tout attention à ce qu'ils faisaient.
Et Champlain avait fait 22 traversées, hein, je crois, de l'Atlantique Nord.
Oui, ce qui en faisait un expert incontestable et incontesté. C'est assez amusant parce que, à la limite, Champlain n'était pas fait pour être un expert en navigation, mais l'intérêt qu'il avait porté à ses traversées et le souci qu'il a eu de naviguer correctement et de faire connaître son expérience en a fait l'un de ceux qui ont laissé un nom à cette époque dans la théorie de la navigation.
C'était un reportage de Mathieu Vidard à Paris. Mathieu interviewait François Bellec, ancien directeur du musée de la Marine, écrivain et aussi peintre officiel de la Marine, il faut le dire, un beau titre, hein, Serge Bouchard, peintre officiel, c'est beau. Alors, donc, on navigue sur les mers dans les conditions qu'on raconte, c'est absolument incroyable, mais il va aussi falloir naviguer sur le fleuve, sur les rivières, sur les lacs. Et là, j'imagine, Serge Bouchard, que les Français vont s'en faire montrer pas mal par les Autochtones.
Pays d'eau, oui. C'est donc un immense territoire, ça va prendre des siècles avant de le cartographier et de l'explorer. Vous savez, l'exploration de l'Amérique, ça va se terminer tard, au 19e siècle. Oui, les Amérindiens sont très présents. D'ailleurs, on a sous-estimé même, on l'a parlé là ici, la navigation des Européens, des pêcheurs, des Basques, des Norses, des Portugais, des Français. Les Amérindiens naviguaient sur la mer aussi, hein.
Oui.
Vieille science de la navigation à bord d'embarcations, de grands canaux. Ils faisaient le golfe Saint-Laurent, ils traversaient, ils naviguaient sur la mer, sur la côte ouest aussi.
Oui,
hein.
Oui,
c'est fascinant, ça, c'est une ancienne science, ça aussi. Maintenant, les Européens et les Français, les Espagnols, tout le monde, beaucoup, beaucoup les Français et ultimement les Anglais vont avoir besoin absolument de la connaissance des Amérindiens qui voyageaient au long cours.
Parce qu'ils avaient des connaissances, effectivement, très fortes, très précises de leur territoire, bien sûr.
C'est ça. Ou bien on les regarde comme des ignorants, des innocents, ou on les regarde comme des savants. C'était des gens empiriquement très au courant. Ils voyageaient au long cours en Amérique. Ils connaissaient les bassins versants. Et tout de suite, ils vont... Et les explorateurs cartographes sérieux, un des génies de Champlain, c'est qu'il était méticuleux, il était prudent, il était... mais il écoutait, il savait écouter, il savait interroger. Alors quand il remonte l'Outaouais, il est toujours en train de considérer, moi ça marche.
On l'a dit, hein, les bons cartographes ou les bons explorateurs, parce que ça va un peu dans la main, c'est ceux qui savaient s'allier les Autochtones.
Toujours.
Les écouter, travailler avec eux, quoi.
Vous avez Samuel Hearne avec le Dene Matanobi, vous avez David Thompson, vous avez dans le Mississippi, c'est la même chose. Il y a toujours quelque chose, il y a évidemment les Amérindiens qui vont, il y a un dialogue là, interculturel, une représentation graphique.
Il y a un transfert de technologie, si je peux prendre une expression aussi moderne, entre les Autochtones et les Français qui viennent naviguer ici. Il y a des transferts?
Il y a le fameux canot, évidemment. Oui. Il y a la façon de voyager, la façon de survivre, la façon de manger. Mais l'important, c'est que les Amérindiens vont donner aux Européens la représentation continentale. Ils vont le faire parce qu'ils la connaissent.
Parce qu'eux, ils ont une représentation de ces vastes continents.
Ils sont pas si, carte, c'est ça. Mais... ils sont pas si locaux. Hein. Dire, bon, j'ai rencontré un sauveur à Québec. Mais le sauveur à Québec, là, s'il y a 45 ans, il s'était promené. Donnacona, par exemple, connaissait les bassins hydrographiques. Il va faire un tabac en France, d'ailleurs, avec ses menteries. Il va aller compter toutes sortes de menteries là-bas. Mais Jacques Cartier découvre... le Saint-Laurent, le Canada, le fleuve s'appelle le Canada, mais parce qu'il y a deux Amérindiens qui veulent revenir chez eux, ils veulent faire reconduire à la maison, la porte.
Ils veulent un pouce avec Jacques Cartier.
Ils veulent un pouce avec Jacques Cartier.
Voilà.
Et en fait, les Amérindiens sont très présents, leur savoir.
Parfait. Oui, merci beaucoup, Serge Bouchard. On vous retrouve, vous et puis vos deux collègues à Québec et à Strasbourg, en deuxième heure des Années-Lumière, après le bulletin de nouvelles. Les Années-Lumière, deuxième heure. Deuxième heure, deuxième partie de cette émission spéciale sur la science en Nouvelle-France à l'occasion du 400e anniversaire de la Fondation de Québec en 1608. Yannick Villedieu, toujours à l'équipe pour vous présenter ce magazine. C'est une émission en multiplex préparée avec nos collègues de l'émission scientifique de France Inter, La Tête au Carré. L'animateur Mathieu Vidard est toujours en studio à Paris. Nous avons aussi des experts invités, l'historien et éditeur Denis Vaugeois de notre studio de Québec, l'anthropologue Serge Bouchard en studio avec nous à Montréal et notre historien des sciences et chroniqueur Yves Gingrade de l'Université du Québec à Montréal, mais qui est en studio à Strasbourg, dans l'Est de la France, et aussi bien sûr le reste de l'équipe des Années-Lumière en studio à Montréal. Dans cette deuxième heure, il va être question de la flore de la Nouvelle-France, de la médecine à l'époque de la Nouvelle-France et de l'architecture en Nouvelle-France, puisqu'il va falloir s'adapter à un milieu et à un climat qui ont dû paraître hostiles aux nouveaux venus. Alors, il y a une science qui est très importante, qui est essentielle, qui est presque dominante à cette époque, donc au XVIIe siècle, eh bien, c'est la botanique, la science des plantes. Et cela pour toutes sortes de raisons. Je retourne à Paris, donc, et à vous, Mathieu Vidard, l'animateur de l'émission La Tête au Carré à France Inter, pour nous raconter cette partie de la science en Nouvelle-France avec votre invité.
Alors, j'ai rencontré Catherine Vadon, Yannick, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, et c'est dans les anciens jardins de Louis XIII que nous avons parlé des découvertes et des échanges botaniques entre la Nouvelle-France et l'Europe. Louis XIII, donc, a acheté en 1633 cette propriété. Il a créé un jardin des plantes médicinales qui comprenait un cabinet de curiosités qu'on appelait le cabinet du roi. Et c'est vrai que depuis Jacques Cartier, les richesses de la faune et de la flore de la Nouvelle-France ont enrichi le vieux continent. Catherine Vadon donc revient, vous allez l'entendre, sur l'intérêt de l'importation des plantes et le commerce de la faune au Canada grâce aux hommes qui ont permis à la France d'enrichir la connaissance de la botanique et les jardins de notre pays.
Dès les premiers voyages de Jacques Cartier, on a eu connaissance, l'Europe a eu connaissance en fait de certaines plantes qui poussaient sur ce pays immense, inconnu, magnifique. Et Cartier s'est intéressé d'abord aux plantes en fait d'importance économique, et puis petit à petit, eh bien, Samuel de Champlain, puis ensuite des missionnaires jésuites et récollets, et puis des expéditions, des médecins ont petit à petit découvert et fait connaître à l'Europe cette flore absolument somptueuse de la Nouvelle-France.
Alors, quel était l'objectif au départ dans le fait de rapporter des plantes sur le vieux continent? Est-ce que c'était à but thérapeutique ou est-ce que c'était pour fournir les jardins?
Bien, à cette époque, c'était les plantes utiles en fait qui étaient intéressantes de rapporter, utiles pour se soigner, utiles aussi pour comme à but de textile, à but tinctorial. Et donc c'était plutôt dans cet esprit-là que les échanges avaient lieu au moins jusqu'au la fin du XVIIIe siècle. Alors en fait, c'est une suite de noms, chacun a eu sa contribution. C'était des gens qui faisaient beaucoup de terrain, hein, et qui donc enduraient les conditions très, très difficiles du Grand Nord canadien, on l'imagine, au moins plusieurs mois par an. Alors il faut citer bien sûr les jésuites qui étaient sur le terrain pour évangéliser donc les Amérindiens et qui ont pris connaissance des méthodes des Indiens pour se soigner, pour se nourrir et aussi les méthodes de chasse qui étaient employées. Sinon parmi les autres noms, il faut citer le médecin parisien Cornutti qui avait cultivé ici à Paris certaines plantes rapportées par Samuel de Champlain. Il avait pu, sans mettre les pieds au Canada, établir une première histoire des plantes donc du Canada. Et c'était donc dans les années 1635, une première. Et ensuite, après lui, il y a eu donc un certain nombre de descripteurs. Et petit à petit, plus ça allait, plus on connaissait à fond cette flore. Mais c'est vrai que ce sont les médecins du roi à Québec, à savoir Michel Sarrazin et Jean-François Gauthier, qui ont vraiment donné un aspect beaucoup plus scientifique à ces recherches. Michel Sarrazin était donc médecin, envoyé donc à Québec, mais il était tout. Il était zoologiste, il était anatomiste, Il était botaniste, il s'est occupé de minéralogie, c'était un homme absolument complet, et donc qui était correspondant pour le grand botaniste Tournefort à l'Académie des sciences. Et il a publié des mémoires sur l'anatomie, l'histoire naturelle de plusieurs animaux et de plusieurs plantes du Canada, en particulier sur le castor, sur le rat musqué. Il a découvert des plantes nouvelles, en particulier une plante carnivore des tourbières du Québec, la Sarracenia, le nom lui a été dédié. Et c'était quelqu'un vraiment, là aussi, un homme de terrain tout à fait exceptionnel. Alors son successeur a été Jean-François Gautier. Là aussi, il était absolument...
Alors médecin du roi, lui aussi.
Médecin du roi également. Et il était correspondant aussi de l'Académie des sciences, en particulier pour Réaumur et pour Duhamel du Monceau, lequel était lui aussi aussi performant en agronomie, en matière de pêche, d'arbres, etc. Donc ces savants avaient en fait une culture extrêmement large. Et donc Jean-François Gautier a poursuivi l'action donc, de Sarrazin, l'a même amplifié. A été aussi descripteur de pas mal de plantes nouvelles. Il a écrit sur l'érable à sucre. Il a envoyé beaucoup d'échantillons ici même, à Bernard de Jussieu, qui était le grand botaniste du Jardin du Roi à cette époque. Et on a encore dans les collections de l'herbier du muséum des plantes qui ont été envoyées par ces deux personnages dans les années 1700 et quelques, qui sont en parfait état. Et c'est vraiment des spécimens extraordinairement émouvants.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans les essences qui ont été apportées de part et d'autre de l'Atlantique ?
Alors, beaucoup d'échecs qui sont difficiles à chiffrer, mais c'est vrai que le transport des plantes par mer, c'était quelque chose, c'était un problème redoutable. On transportait ces plantes, on les déracinait, on les transportait, il fallait à peu près 2 ou 3 mois pour traverser l'Atlantique sur des bateaux. Quand il y avait un coup de mer, eh bien, les marins qui étaient embarrassés avec toutes ces caisses sur le pont du bateau, bah, bien sûr, souvent les caisses partaient à l'eau. L'eau douce profitait d'abord à l'équipage et ensuite aux plantes, donc on imagine bien quelles difficultés elles pouvaient rencontrer. Alors, Baron la Galissonnière et Jean-François Gautier ont réalisé un petit fascicule qui est en fait le premier recueil d'instructions destinées aux marins et aux voyageurs et destinées à transporter les plantes le mieux possible. Alors, ils expliquent qu'il ne faut pas mettre sur le pont, il faut couvrir avec une bâche. Quand il fait beau, il faut aérer, etc. Et ces recueils vont évidemment se multiplier dans le temps et évidemment s'affiner beaucoup. Mais lui, c'est le premier, en 1753.
Alors, dans l'étude de la faune, il y a quelques histoires autour des castors aussi.
Alors la faune, évidemment, quand les premiers les expéditions ont découvert cette immensité et cette faune absolument extraordinaire en Nouvelle-France, eh bien, ils ont décrit, évidemment, ils partaient pour certains pendant les saisons de chasse avec les Amérindiens, donc ils apprenaient comment trapper, comment chasser, et donc ils ont découvert quelles étaient les espèces qui étaient surtout chassées. Alors évidemment l'orignal, l'élan, il y avait aussi le caribou, il y avait l'ours noir, une chasse extrêmement dangereuse. Et puis, il y avait bien sûr le castor, hein, ce rongeur à la taille quand même impressionnante.
C'était le commerce des peaux, évidemment.
Voilà, puisque en fait, à défaut d'or et de diamants que Cartier aurait bien aimé trouver, ces Européens ont trouvé cette extraordinaire abondance d'animaux à fourrure. Et évidemment, le commerce de la traite des fourrures a été très très vite le numéro un des transactions avec la Nouvelle-France. Et c'était du troc, il n'y avait pas d'achat de marchandises, on troquait. Et la peau de castor était devenue en fait l'espèce d'unité en fait monétaire, c'était l'étalon. Alors on troquait, par exemple, un fusil, ça valait par exemple 14 peaux de bouc castor, ou bien une couverture, ça en valait 7, etc.
Je crois qu'il y a une histoire autour du ginseng également.
Alors le ginseng, oui, effectivement. Le ginseng, c'est une plante assez particulière dont la racine a une forme, dit-on, avec un peu d'imagination, anthropomorphique. Et les Asiatiques en sont très friands puisque le ginseng aurait des vertus soi-disant aphrodisiaque. Ils en font, surtout au XVIIIe siècle, déjà une grande consommation. Et un certain père jésuite, au début du XVIIIe siècle, a trouvé une variété de ginseng dans les forêts du Canada. C'était déjà connu des Amérindiens. Et surpris, il l'a envoyé à Paris. L'exemplaire est allé à Canton. Et là-bas, ça a été extraordinaire. Et donc, un engouement absolument fabuleux pour ce ginseng au Canada, qui valait très très cher. Il y a eu, paraît-il, d'après les écrits, un effet semblable à la ruée vers l'or quelques années plus tard. Et on s'est mis à le cueillir en quantité, mais on le cueillait trop tôt pour aller plus vite. On le séchait dans un four et pas au soleil, donc on perdait en fait une partie de ses qualités. Et malheureusement, l'histoire du ginseng de Tartarie n'a pas eu le développement qu'il aurait pu avoir. Et ensuite, le ginseng a été cultivé en plusieurs endroits d'Amérique du Nord.
Un reportage de Mathieu Vidard qui interviewait Catherine Vadon, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Alors Yves Gingras, je m'en vais à vous à Strasbourg. J'ai dit tout à l'heure que la botanique était alors une science importante, presque dominante. Est-ce que c'était vraiment son statut, son importance? Oui.
Il y a deux niveaux. Il y a d'abord, bien sûr, comme on vient de le voir, la question de l'usage des plantes pour la médecine. Et si on parle de science, là, on tombe dans la question de la classification. Or, il est très important de voir que jusqu'au 18e siècle, effectivement, les classifications des plantes étaient assez simples. On avait des bestiaires qui décrivaient toutes sortes d'animaux. On avait des encyclopédies qui, depuis les Grecs et à travers le Moyen-Âge, décrivaient l'ensemble des plantes qu'on connaissait. Mais avec la découverte de l'Amérique, on a une multiplication de plantes complètement nouvelles, d'animaux complètement nouveaux qui vont stimuler, on pourrait dire, la pensée théorique. Et dans les années 1750, Linné, le fameux botaniste suédois, va inventer le nouveau système de classification binaire. Puis on peut dire jusqu'à un certain point qu'il est commandé ce nouveau système par la multiplication, les milliers de nouvelles plantes inconnues en Europe qui sont amenées et qui obligent à repenser la distribution, l'organisation des genres et des espèces.
Donc un bel exemple.
Un effet sur la science.
Oui, un bel exemple de l'importance de la science appliquée qui pose des questions fondamentales et inversement.
Oui, parce que dans le cas de la botanique, effectivement, c'est d'abord et pendant très très longtemps, presque jusqu'à nos jours, une science au fond purement descriptive. Il faut trouver des plantes, il faut se promener. Et comme on le disait, par exemple, Barin de la Galissonnière ordonnait à ses soldats qui se promenaient en disant « Quand vous vous promenez, regardez les plantes. Et si
ramassez
vous en trouvez
plantes,
qui sont dans mon guide, amenez-moi-les. » Donc, il faut envoyer au hasard des champs, comme on le fait encore actuellement pour les champignons. Hein. On peut trouver encore des nouveaux champignons. Il n'y a aucune théorie qui peut vous prédire l'existence de nouveaux champignons comme l'existence d'une particule élémentaire en physique. Ça se prédit, mais les plantes, c'est l'aléa de l'évolution, l'aléa de l'isolation qui amène des évolutions dans certaines directions.
Et de la découverte,
beaucoup,
c'est ça, oui.
Et on ne l'a pas mentionné jusqu'ici, je pense que comme on parle de l'Amérique, c'est important, c'est la création, la fondation en 1635 du Collège des Jésuites.
Oui.
Ce qui fait que là, on va voir pour la première fois en Amérique une école qui va utiliser le mode de formation que les Jésuites ont en Europe, le ratio studiorum, et on va enseigner la géométrie, on va enseigner des cours d'hydrographie, on va donc former localement première génération
de scientifiques.
Scientifiques.
Je me tourne maintenant vers vous, Serge Bouchard, ici en studio à Montréal. Bon, quand on parle de plantes, on parle d'échanges de savoir entre les peuples autochtones puis les Français qui arrivent. J'imagine que dans ce domaine-là, ça a été... Là, je ne parle pas de la médecine, on va en parler dans quelques minutes, mais l'échange sur les plantes, sur les animaux, ça va être très important entre les deux.
Pendant longtemps, on a peu parlé de ces choses parce qu'il y a eu... Ça se pratiquait beaucoup, c'est-à-dire un dialogue, une recherche commune, mais aussi une sorte d'apprentissage. Parce que non seulement les Européens, on pense à Louis Hébert puis à d'autres, là, au tout début, vont le faire. Non seulement les Européens, pendant plusieurs décennies, en Nouvelle-France, vont chercher par eux-mêmes, vont observer par eux-mêmes, mais ils avaient aussi de l'information qui venait de l'autre, c'est-à-dire de l'Amérindien. Ça, le Montagnais, le Huron, l'Iroquois, les Algonquins en général. Et il fallait reconnaître à cette époque que ces gens connaissaient la faune et la flore et qu'ils avaient des systèmes de classification. Pendant longtemps, par la suite au 19e siècle, au 20e siècle, on a cru que non, la définition, ce sont des ignorants, donc ils sont ignares.
Oui.
Mais on a redécouvert tout ça et effectivement, il existe dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, c'était le cas avec les Indiens, une ethnoscience, c'est-à-dire que tous les êtres humains, ont l'esprit scientifique. Tous les êtres, oui. la classification, l'idée de faire des taxonomies, des classes, des correspondances, c'est universel. Tous les êtres humains font
c'est
ça.
C'est dans l'esprit humain.
Alors, ils connaissaient tous les animaux dans le détail, ça comprend les insectes, ils connaissaient toutes les plantes, les correspondances, leur usage. Alors, c'était des partenaires extraordinaires. Et les meilleurs, ceux qui vont prendre de l'avance, ben, ceux, c'est ceux qui sauront parler les langues et collaborer et utiliser ce qu'on appelle le savoir ethno-scientifique des Premières Nations. Que c'est beau quand ils disent comme ça.
Bon, bien sûr, Serge Bouchard. Alors, des plantes et de la botanique, on passe tout naturellement à la médecine, on est presque dedans, là, qui était beaucoup de médecine par les plantes à l'époque. Et on peut dire que, bien avant l'arrivée des Européens en terre d'Amérique, bien, les peuples autochtones avaient développé, bien sûr, des savoirs pour guérir leurs maux, les maux dont ils souffraient. Sophie-André Blondin.
Oui, les maux du corps et ceux de l'âme qui étaient intimement liés. C'est en observant les animaux, en faisant des essais, des erreurs avec les plantes, même en faisant des rêves, qu'ils ont développé leur pharmacopée en utilisant finalement toutes les strates de la forêt, les arbres, la sève des arbres, les arbustes, les plantes, le lichen qui pousse sur les roches même, qu'on appelait les tripes de roche. Les savoirs autochtones et la médecine blanche ont évolué sur des voies bien séparées depuis 400 ans, mais il y a des intersections qui sont plus fréquentes maintenant. Par exemple, pour parler des problèmes du diabète, il y a une maladie qui frappe durement les peuples des Premières Nations. Il y a des chercheurs de laboratoire qui sont en train de vérifier l'effet des rameaux et des feuilles de bleuet sur le taux de glycémie.
Très bien.
Mais on retourne en Nouvelle-France, si vous voulez bien, pour raconter un tout petit chapitre de l'histoire de la pharmacopée autochtone et sa rencontre avec les Européens. Je vous propose ce reportage.
Alors, vous voyez ici là, la forêt. Alors, chaque arbre, on les utilise. Moi, j'ai dit souvent, regarde devant vous, là, c'est la forêt. Et la forêt, pour moi, c'est mon Jean Coutu.
Comme ses 17 frères et sœurs, l'Algonquin Dominique Rankin est né dans la forêt. Il y a vécu en Abitibi jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est là qu'il a appris à confectionner le tambour qui accompagne son chant. C'est là aussi qu'il a appris ce que ses ancêtres et leurs ancêtres bien avant savaient des vertus thérapeutiques des arbres, des plantes et des animaux qui les entouraient.
Moi, j'arrive dans l'ouest du Canada. Il y a eu des rituels là-bas. J'ai eu plein de cadeaux. Et j'ai eu aussi la graisse d'ours. Alors, la graisse d'ours, je fais n'importe quoi avec ça. Des fractures au verre, on va essayer de protéger tout de suite, de tuer les bactéries, puis on va utiliser les testicules des castors. On fait sécher ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans 6 mois, là, c'est très, très, très puissant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vend pas. Tu ne peux pas acheter ça.
Non, j'ai jamais vu ça chez Jean Coutu.
Non, ça ne s'achète pas. C'est des cercles qu'on appelle le cercle des guérisons.
Nous sommes au centre ethnoculturel Kanata Aki. La tente de sudation est l'une des solutions amérindiennes aux problèmes du corps, qui sont toujours intimement liés aux problèmes de l'âme.
Vous voyez à terre, c'est couvert avec du cèdre au début.
Sur un tapis de rameaux de sapin, des offrandes de cèdre et de sauge. Autour des crânes d'animaux monte la garde.
Et le crâne de l'orignal. Les crânes, ils ont un rôle à jouer, c'est protéger tout ce qu'il y a ici. On peut imaginer aussi l'orignal. Vous connaissez l'orignal? Comment il est gros, puis il y a des panaches. Alors, il nous enseigne, hein? C'est la force. Il ne recule pas, il va devant. Les humains, eux autres, ils ont la tendance de reculer, de vivre en arrière avec le problème. Ici, on regarde en avant. On nettoie tout en arrière.
C'est par ici que ça commence.
Oui.
Au Jardin botanique de Montréal, dans le Jardin des Premières Nations.
On retrouve un arbre important pour l'ensemble des Premières Nations du Québec, c'est le sapin baumier.
Ce sont surtout les plantes qui retiennent l'attention. Il y a 4 siècles, dans un environnement semblable, les peuples autochtones trouvaient remède à leurs maux.
Pour les coupures, les blessures et les travaux modernes qui se font à l'heure actuelle ont montré justement que le sapin baumier, certaines des molécules, être intéressant pour aider la chimiothérapie.
Alain Cuérier de l'Institut de recherche en biologie végétale étudie les savoirs autochtones au sujet des plantes et de la forêt.
On ne parlera pas des petites maladies que les Européens ont rapportées et qui ont ravagé les Autochtones. Ce qu'il y avait beaucoup, c'est des problèmes d'infection, des problèmes de peau entre autres. Les plantes médicinales utilisées montrent qu'il y avait également des problèmes de cancer, de tumeurs, qui étaient traités par la pomme de mai, Podophylle pelletée. Et elle est encore aujourd'hui utilisée pour des problèmes de cancer. C'est même une plante sur laquelle on fait pas mal de recherches. En avant, il y a des bouleaux, bouleaux à papier. Donc, l'écorce interne était utilisée pour des problèmes de peau, pour aussi aider le foie. C'est une plante qui est très, très intéressante. Et aujourd'hui, on travaille sur l'acide bétulique ou bétuline pour connaître un peu mieux les effets bénéfiques du bouleau. Il y a des plantes qui arrêtaient le segment. C'est le cas de la sanguinaire qu'on connaît parce que le rhizome donne une teinture rouge. Donc, pour les autochtones, c'est une plante qui aidait à stopper les hémorragies, les segments, problèmes d'ulcères, de bouche, problèmes également de maux de gorge. Donc, on peut à ce moment-là faire un tour et aller chercher la savoyane, qui est un terme micmac, qui est un terme algonquin pour la plante Coptis trifolia. Et il y avait des problèmes pulmonaires, on peut penser à la capillaire, qui est une fougère, Adiantum. Quand on voit ça, on voit qu'il y avait un remède à peu près à tout ce qu'ils rencontraient. Donc, il y avait une récolte qui était faite et il y avait évidemment une conservation de parties séchées. Conservation dans des paniers qui étaient faits en écorce de bouleau. On peut récolter, on pouvait même garder des petits fruits qu'on faisait bouillir, qu'on faisait une pâte, qu'on appelait un fromage, le bleuet, par des Atikameks notamment, et on enfouissait le panier dans la terre. Et lorsqu'il venait temps de problèmes de scorbut, problèmes d'alimentation, de manque de nourriture, ben d'aller chercher ces réserves-là.
D'ailleurs, c'est grâce à ces savoirs autochtones qu'une partie de l'équipage de Jacques Cartier, atteint de scorbut, a pu survivre. Cette rencontre entre deux peuples, autour d'une maladie, d'une plante et d'un remède, fait partie de l'histoire des Blancs, comme de celle des Premières Nations.
Ils sont arrivés avec plein de maladies. Il y en a plusieurs qui ont perdu la vie, qui sont morts par rapport de cette maladie qui était très puissante, la scorbut. Alors les Autochtones, ils ont aidé ces gens-là pour les guérir au niveau physiquement. Alors ils ont utilisé la gomme de sapin parce que les infections, ça se faisait sur les gencives. Alors c'est juste avec la gomme de sapin qu'ils ont réussi à survivre. C'est pour ça que les gens sont ici encore par rapport de cette plante-là.
Évidemment, comme toute bonne histoire, elle se réserve quelques variations et préserve sa part de mystère.
Quelle était cette plante mystère qui a sauvé l'équipage? Le cèdre blanc ou le tuya qui est la plante. D'autres pensent que c'est plutôt le sapin. Les noms Aneda ressemblent à des noms Mohawk pour des pins. On n'a aucune idée. Il faudrait peut-être qu'un linguiste s'interroge. Je lance un appel à tous les ethnolinguistes. Aneda, c'est quoi? Quelle est cette plante? L'autre partie intéressante, c'est de faire justement des recherches au niveau phytochimique. Donc, il y a du travail à faire encore sur Aneda.
En attendant que la science ne poursuive ses investigations phytochimiques, chez l'Algonquin Dominique Rankin, les connaissances traditionnelles continuent d'être objet de transmission, de transformation et d'échange.
Malgré tout ce qui s'est passé pour essayer de détruire cette médecine-là, j'ai dit toujours Miigwech. Miigwech, ça veut dire merci. Mes ancêtres qui ont tenu le coup de ne pas abandonner.
Miigwech, Sophie-André Blondin, pour ce beau reportage au Jardin botanique de Montréal et dans la forêt des Laurentides, de Serge Bouchard. Vous avez écouté ce reportage avec délectation, je vous ai vu. Dites-moi.
Ça confirme ma bonne santé. Moi, je passe mon temps à grignoter du sapin.
c'est un beau cas d'ethnoscience qu'on vient d'entendre.
Ben, tout à fait.
Vous avez parlé de ça tantôt, l'ethnoscience.
Mais on parle donc d'une connaissance savante quand même. Ces anciens étaient sur le territoire et ils essayaient constamment des choses, mais ils avaient une vie, alors ils avaient des problèmes, des maladies, ils se blessaient. Il ne faut pas penser que parce que sauvage, il se laissait saigner à blanc quand il était en hémorragie. Il savait comment arrêter l'hémorragie.
Oui.
Il avait une connaissance anatomique aussi très précise. Il savait comment fonctionnait le corps. Ils avaient un beau modèle, c'était l'ours. Hein? L'ours ressemble beaucoup à tous les chasseurs. Vont vous dire qu'un ours, c'est quasiment un clone de l'humain.
Parlez pour vous,
Oui. Pour vous aussi. Enfin, bon, il n'est pas à la télévision. Ici, il n'y a pas de webcam. Mais donc, ils avaient savait, oui, empiriquement, il savait comment fonctionnaient les intestins, il savait c'était quoi une tumeur, il savait c'est... Et il se soignait. Et ça, ça amène beaucoup à la connaissance universelle. Mmh. C'était un savoir. Évidemment, c'est culturel. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on le reconnaisse. Il faut avoir confiance, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une approche holistique. Alors,
oui, oui. On y revient.
On l'a dans le. Alors, c'est là. Et on y revient, nous, à l'idée que l'esprit y est pour quelque chose et c'est une totalité. Et ils étaient obsédés par la santé, les Amérindiens. Les Premières Nations, dans à peu près toute culture, ils avaient ça. Ils voulaient la santé. L'équilibre. Ils trouvaient ça beau, la santé. Et puis, ils avaient une peur bleue d'être malade. Ils avaient une peur bleue d'avoir un mal à l'âme, qui était une sorte d'empoisonnement. Alors, ils étaient des savants, effectivement.
Oui, ils avaient développé...
Des savantes, surtout, parce qu'il y avait beaucoup une connaissance féminine.
Par les femmes.
Alors,
on va faire un peu d'ethno-linguistique. Vous faites de l'ethno-science, on va faire de l'ethno-linguistique en direct. On dit, c'est quoi la néda là, qui guérissait le scorbut? C'était quoi, d'après vous? Est-ce que vous êtes assez ethno-linguiste pour savoir ça?
J'ai beaucoup travaillé, moi, là-dessus. Mais oui. Là, je vais me disqualifier tout de suite. Je connais bien l'algonquin. Alors, ça, c'est iroquois, alors j'ai rien à dire. je n'en sais rien. Merci. Mais il y a peut-être de niveau joie, là. Il y a des théories. Parce qu'effectivement, on sait pas trop ce que c'était.
Oui.
Mais moi, je recommanderais à tous les auditeurs et auditrices de manger du cèdre et du sapin, du pain mélangé. Alors, vous n'allez pas le rater.
De niveau joie, à Québec, justement, cette histoire de scorbut, donc c'est une vraie histoire, hein, ça.
Oui, oui, absolument. Ça, d'ailleurs, c'était pas propre à la vallée de Saint-Laurent. En Acadie, il y avait eu le même problème, mais Champlain, par exemple, va dire, ah, ça précise cette maladie-là, faut se documenter parce que il savait que les Hollandais avaient eu le même problème. Et il croyait que les Hollandais avaient trouvé également un remède. Donc, il dit, là, on était négligents, on aurait dû se préparer, on aurait dû se documenter.
Donc, il y a cette médecine autochtone, mais il y a aussi une médecine, je dirais, européenne, hein, qui vient, qui arrive ici à la Nouvelle-France. Et pendant, au tout début de la Nouvelle-France, il y a beaucoup de figures marquantes qui vont être des médecins. Je pense à Michel Sarrazin qu'on a évoqué, par exemple.
Oui, oui. Oui, mais c'est plutôt dans l'autre sens, moi, que je trouve que c'est important. Ces gens-là, ils apportent plutôt des maladies que des remèdes.
Ah oui?
Et par ailleurs, ils font le plein des ressources qu'offre le continent. Le continent, dans son sens large, là. Y a, par exemple, un médicament miracle aujourd'hui, c'est la quinine. La quinine vient d'Amérique. Là, je suis obligé de faire encore le vendeur. On a un livre qui s'appelle L'Indien généreux.
Oui.
Mais j'insiste très sérieusement. C'est un ouvrage de vulgarisation, mais qui couvre bien ce que le monde entier, mais l'Europe en particulier, doit aux Amériques. Et disons, la partie botanique est importante, et pas seulement qu'au niveau de la pharmacopée, pas seulement au niveau des remèdes, mais au niveau alimentaire. Hein, l'alimentation qui vient des Amériques change l'alimentation du monde, de la planète. L'Europe va se repeupler à partir des aliments qui arrivent d'Amérique. L'Afrique va se repeupler. On pense souvent que le manioc, par exemple, est une plante africaine. C'est une plante américaine. L'arachide est une plante américaine. Donc, la planète se transforme. Même les Chinois vont profiter de ce qui vient d'Amérique.
Exactement.
Par exemple, les piments et tout ça vient d'ici.
Et on trouve tout ça dans L'Indien généreux.
Dans L'Indien généreux.
Un livre qui a été publié au Septentrion.
Oui, il y a déjà plusieurs années, on l'avait fait.
Je reviens de niveau joie à nos médecins, à nos médecins de la Nouvelle-France.
Oui, bien, OK, allons-y aux médecins.
Qui ont vraiment un rôle important
J'insiste. J'insiste sur une chose.
Gauthier, etc., oui.
Oui, mais j'insiste, ils ont surtout apporté la maladie, on ne sait pas à quel point, hein. Mais par ailleurs, effectivement, ils observent, ils ramassent des plantes, mais ils n'ont pas été les premiers. Champlain l'avait fait, Louis Hébert l'avait apparemment fait aussi. Pierre Boucher va le faire, les Jésuites vont le faire. Et on accumule comme ça à Paris la connaissance à partir de ce qui leur arrive. Et là, on publie, Cornutti publie d'abord un premier traité de botanique dès 1635.
Hein. Oui, donc pas très loin après la fondation de Québec.
Mais ça n'arrive pas seulement d'ici. Les Hollandais le font, les Anglais le font. Et au sud, alors là, écoutez, ça fait 100 ans que les Espagnols le font.
Donc, c'est vraiment, on a l'Eldorado en Amérique.
Vous voulez absolument qu'on revienne à Sarrazin et à Gauthier. Sarrazin et Gauthier vont produire des documents formidables. Sarrazin est plus connu parce que ça a été publié, mais on sait qu'on a encore des trésors à découvrir du côté de Jean-François Gauthier. Et ces gens-là, leurs noms sont accrochés aux grands noms de Français comme Jussieu, Olinné, et ainsi de suite.
Etc., oui. Alors, je me tourne vers Yves Gingras maintenant, historien des sciences qui est en studio à Strasbourg. Yves, on dit médecine moderne à l'époque, enfin, ou médecine européenne, qui n'était peut-être pas si moderne que ça, mais c'était un peu bizarre. Hein. Il y avait une médecine très livresque qui se faisait en latin, c'était la médecine des médecins, que Molière a caricaturé d'ailleurs. Puis il y avait les chirurgiens, puis il y avait les barbiers qui étaient un peu moins nobles. C'était un drôle de domaine scientifique que la médecine européenne à l'époque.
Oui, parce que si on donne, par exemple, pour fixer les idées, la date de Galilée en 1610, on peut aussi, pour fixer les idées, rappeler qu'en 1628, William Harvey, qui est le médecin du roi d'Angleterre, va publier son livre, qui est à l'époque aussi révolutionnaire, sur la circulation du sang. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on avait une vision de la circulation du sang complètement nouvelle, cette idée que le cœur, c'est une pompe qui fait circuler mécaniquement, si on peut dire, donc c'est lié à la vision mécanique du monde qui s'impose en Europe au début du 17e siècle. Mais il faut garder séparé radicalement la médecine comme science, comme savoir abstrait, et la pharmacopée, la guérison. Parce qu'au fond, la médecine vit presque jusqu'au 19e siècle de choses assez simples. Ils ont peu de remèdes, ils ont des saignées. C'est vraiment la médecine qu'on pourra dire scientifique qui va inventer des choses qui guérissent, c'est le 20e siècle. Parce qu'il faut rappeler que Pasteur découvre les microbes dans les années 1850. Donc, une fois qu'on commence à comprendre les microbes qui causent des maladies, qu'on invente les concepts de virus, on découvre qu'il y a des virus, c'est uniquement au 20e siècle qu'on va inventer les produits chimiques pour tuer ces choses-là. Donc, jusqu'au fin 19e, au fond, les médecins savent faire peu de choses. Il ne faut pas penser que la médecine européenne, sur le plan de sa pratique, est vraiment supérieure aux incantations. Hein.
C'était vraiment une médecine très primaire, effectivement, qui en savait peu. Elle faisait peu de choses, elle faisait peut-être peu de mal aussi, c'est un tant mieux. Alors, on continue, Yves Gingras, toujours dans cette émission spéciale sur la science en Nouvelle-France, en marge du 400e anniversaire de la Fondation de Québec. C'était en 1608. Alors, on a parlé, il y a une science à la fois qui s'érige, qui prend son statut de science, mais qui est aussi beaucoup, beaucoup une science appliquée aux besoins de la vie quotidienne, dont un des besoins fondamentaux, se loger. Et il y a 400 ans, Chantal Srivastava, ici, en Nouvelle-France, est née une tradition architecturale qui a fait des petits. Hein.
Oui, on n'a pas que des cabanes au Canada, Yannick. Alors, blague à part, les premiers arrivants ont dû composer avec, on l'a vu au cours de l'émission, de multiples contraintes, des contraintes qui, au fil du temps, ont façonné aussi leur maison. Et pour illustrer tout cela, je me suis rendue à la Place Royale à Québec où on a vraiment une des incarnations en pierre de tout cela. Je vous propose donc de faire une petite visite, mais aussi un voyage dans le temps.
Bonjour, bonjour. Je m'appelle Marianne Barbel. Je suis née en 1704 et j'étais une femme d'affaires ici à Place Royale. J'aimerais bien vous parler un peu de ma maison, qui est d'ailleurs bien jolie. Suivez-moi, on va se diriger vers celle-ci.
Nous sommes sur la Place Royale, berceau de l'Amérique française. Notre guide a revêtu le costume d'époque, bonnet, corset, jupe et jupon. Elle incarne Marianne Barbel, propriétaire d'une grande maison de pierre de 3 étages, bâtie en 1754. Une très belle maison où des voûtes rappellent l'architecture classique française.
Sous nos pieds, en ce moment, se trouvent 2 belles grandes caves voûtées. Donc, c'est le lieu parfait pour entreposer les denrées périssables. Bon, les légumes, le vin, l'alcool. Bien commode pour nous. Hein.
Cette maison cossue n'a rien à voir avec la première habitation érigée ici en 1608 par Samuel de Champlain. Parce qu'au tout début de la colonie, la main-d'œuvre qualifiée faisait cruellement défaut, comme le raconte Luc Nopen, historien de l'architecture à l'Université du Québec à Montréal.
Les bons ouvriers, les bons menuisiers, les bons charpentiers ne venaient pas ici parce qu'ils avaient du travail. Donc, ceux qui venaient étaient un peu moins bien formés ou pas formés du tout, se formaient ici au contact de quelques charpentiers de navires et apprenaient leur métier sur le tas. Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il se développe vraiment en Nouvelle-France une tradition dans l'art de bâtir et qui aboutisse à des maisons et des constructions solides. On a des rapports et des lamentations sur la qualité des bâtiments. Marie de l'Incarnation arrive ici dans les années 1640. Elle loge dans une petite maison en Place Royale, puis elle dit comment il fait froid, parce que quand elle est couchée dans son lit, elle voit à travers les planches du toit, elle voit dehors. Alors imaginez, il faisait moins 30.
« bâtir pour se protéger du froid. C'est tout un défi pour ces premiers colons, d'autant plus qu'ils utilisent des techniques éprouvées sur le vieux continent, mais peu efficaces ici, une fois l'hiver venu. Et dire qu'ils n'ont même pas songé à s'inspirer du savoir-faire des Amérindiens pour apprivoiser le froid. Parce qu'en architecture aussi, c'est le choc des cultures.
Quand les Français sont arrivés ici, ils ont découvert avec stupéfaction une architecture qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, qui était éphémère et qui était essentiellement naturelle et dynamique. C'est-à-dire que les Amérindiens prenaient des produits de la forêt, du bois, des tiges, des feuillages, et les pliaient, les attachaient, les couvraient de morceaux d'écorce, et ça faisait des maisons, évidemment, qui duraient le temps d'une saison ou de quelques saisons jusqu'à ce qu'ils se déplacent à l'endroit suivant. Les Français, eux, avaient, depuis fort longtemps, pris l'habitude de débiter la pierre pour faire des murs, l'assembler, l'appareiller pour faire des murs, et de tailler du bois pour faire ce qu'ils appelaient des ex, c'est-à-dire des planches ou des colombages, et avec ça, faire des charpentes, faire des murs, faire des planchers, ainsi de suite. Donc, les deux ont découvert une culture tout à fait différente, un rapport tout à fait différent au construit. Et les Amérindiens ont vu avec étonnement, par exemple, les pères jésuites, à qui ils avaient prêté une maison longue, qui était donc faite de ces roseaux inclinés, installer une cloison de bois avec des planches. D'abord, l'idée même de séparer un logis pour différentes fonctions leur était étrangère, et ensuite d'utiliser cette mise en œuvre de matériaux, c'était tout à fait étrange. Alors, les Français n'ont jamais pris de leçon de cet art de vivre ou de cette urbanisation, même de cette façon de disposer ou de ces techniques de construction amérindienne. Donc, il a fallu trouver des matériaux de substitution et inventer de nouveaux dispositifs. Et tout le génie est là. Ce n'est pas l'adaptation de la maison au climat, c'est l'adaptation de la maison au feu que l'on doit faire pour contrer le climat.
Fringue, fringue sur la rivière, fringue, fringue sur l'aviron, mon père a fait bâtir maison. Fringue, fringue sur l'aviron, l'a fait bâtir à trois pignons, tortille, morfille, arrangeur de fossiles, tribouille, marteau, bonsoir, lutin. Fringue, fringue sur la rivière, fringue, fringue sur l'aviron.
L'architecture en Nouvelle-France évolue sous le signe du feu. En 1682, Québec brûle. Puis, en 1721, c'est le grand incendie de Montréal. De ses cendres naîtra l'architecture canadienne, une manière de faire qui délaisse certains des attributs si chers au classicisme français, tels les ouvrages en bois, qui résistent bien mal aux flammes. L'ingénieur Gaspard Chausse-Gros de Léry édictera en 1727 le premier vrai code du bâtiment, conçu pour éviter la propagation des incendies. Murs coupe-feu, charpentes allégées, cheminées isolées deviennent alors la norme, tandis que les ornements de bois sont proscrits. Et les changements ne s'arrêtent pas là, comme le souligne notre marchande du 18e siècle, Marianne Barbel, qui décrit ici une des innovations qu'on peut voir sur les toits de la Place Royale.
En 1744, un ingénieur militaire de son nom et prénom, M. Gaspard Chausse-Gros de Léry, il crée la tôle à la canadienne. Comme on voit, la toiture bleu pâle gris, juste ici. Eh bien, c'était parfait. La tôle à la canadienne, à mon époque, c'était très peu dispendieux, résistant, et ça ne brûle pas, donc ça s'est avéré un très bon matériau.
Au fil du temps, les premiers habitants de la Nouvelle-France ont su réinventer l'architecture classique pour l'adapter au nouveau monde. Une architecture qui s'est construite à la dure, sur les chantiers, et qu'incarne aujourd'hui cette place royale qu'il a fallu reconstruire de toutes pièces afin que perdure cet héritage si cher à Luc Nopel.
Le temps a superposé des couches. On dit souvent que Québec est un palimpseste qui s'est perpétuellement réécrit, mais que c'est aussi un caméléon qui a changé de peau au fur et à mesure du contexte des occupants. Et donc, la ville britannique et la ville nord-américaine se sont superposées. Et un beau jour, on s'est dit, mais il ne reste plus rien des origines françaises. Et c'est là qu'on a entrepris de reconstituer le berceau de l'Amérique française pour donner un siège social à l'identité française en Amérique. Et c'est ça, Place Royale. C'est un lieu de mémoire pour tous les Français d'Amérique. Et ça témoigne de cette présence-là.
Alors, c'était un autre de ces beaux reportages, cette spéciale sur la science en Nouvelle-France, un reportage de Chantal Srivastava à Place Royale à Québec. On va rester à Québec, bien sûr, avec vous, Denis Vaugeois, qui est en studio à Québec. C'était dur, hein, la vie en Nouvelle-France, c'était pas évident, disons surtout l'hiver, quand on voyait à travers les planches du toit. Ça a été vraiment extraordinaire, cet apprentissage.
Je pense qu'il faut admettre aussi que ces descriptions que ceux qui rentraient en France faisaient de l'hiver ne facilitaient pas l'immigration. On avait peur des moustiques, puis on avait peur de l'hiver. Et imaginez les premières maisons, d'ailleurs, au début, il n'y a pas de plancher de bois, hein, on est sur la terre, en plus de ça, là, dans les maisons. Imaginez le contact avec la terre, ça prend un certain temps avant qu'on puisse faire des planchers de bois. Pour les fenêtres, c'est la même chose. On met des panses d'animaux, on met des parchemins pour fermer les fenêtres. Les carreaux, c'est un grand luxe. La vitre, là, sous forme de carreaux, c'est grand luxe. Et au début, on construit en bois. Ça prend un certain temps avant de construire en pierre. Après ça, on apprend, pour combattre le froid, justement, on observe la nature et là, on se rend compte que les vents dominants sont d'ouest. Sauf que ce vent-là fait une espèce de rafale et nous renvoie du froid du côté du nord-est. Et là, on apprend, si vous voulez, à ravaler et à couvrir davantage les maisons du côté du nord-ouest pour se protéger de cette espèce de retour du froid. Mais les gens apprennent quand même assez vite.
Mais il y a aussi toute l'architecture militaire, hein, Denis Vaugeois, une architecture militaire qui est très importante. Il y a des restes à Québec. On voit bien ce que c'était, l'architecture militaire de l'époque.
À Québec, les vestiges qu'on a sont plus britanniques que français. Mais il reste quand même des éléments des fortifications des Français. Mais en général, les fortifications françaises sont disparues. À Montréal, c'est à peu près le cas. Mais il reste quand même que les Français, au fur et à mesure qu'ils progressaient sur le continent, construisaient des postes, construisaient des forts. Et c'était des chaînes de forts. Hein? On avait besoin de ça pour se ravitailler et puis pour progresser. Parce que les distances sont énormes. Alors, on ne peut pas dire, j'ai oublié quelque chose, il faut que je retourne à Québec. Donc, tout le long du parcours, il faut avoir des étapes où l'essentiel est réuni.
Ah, oui. Et il y a Vauban, hein, quand on parle d'architecture militaire, donc 17e, 18, qui va mourir au début du 18e. Vauban est un personnage extrêmement important. On va utiliser les connaissances ou les plans, les préceptes de Vauban ici aussi?
Oui, absolument. Les ingénieurs militaires sont, depuis la Nouvelle-France jusqu'à sous les Britanniques, ça va être encore vrai, les ingénieurs militaires sont très impressionnants. C'est des gens qui... moi, j'en reviens pas. On se déplace, on arrive, je sais pas moi, au bout du lac Michigan, mettons. Ben là, on dit, bon, mais si c'est pas mal, on s'arrête. Et là, le temps de le dire, ils vont ériger une fortification à l'autre bout du pays. Ils deviennent très inventifs. Et soit dit en passant, pour Serge Bouchard, on conviendra qu'en général, les Français s'entendent avec les Indiens. Les Indiens sont intéressés à ce que les Français ouvrent. Pour eux autres, c'est un poste de traite. C'est un endroit où on va faire des affaires.
Et c'est vrai, Serge Bouchard, donc l'architecture militaire, c'est aussi une architecture commerciale.
Oui, mais il y en est peu resté. Mais c'est vrai ce que dit Denis Vaugeois. Il y a un travail considérable qui s'est fait tout au long, jusqu'au Mississippi, les chaînes de forts. Mais il faut imaginer dans le détail la construction. Ça. D'abord, la conception, les hommes qui construisaient, c'était rapidement fait. Bon, évidemment, ça a été brûlé, ça a été détruit. Puis il y a des tristesses des fois. Hein, quand on dit ils abandonnaient le fort, et le responsable disait, bon, brûlez-moi tout ça. C'était triste, ça.
Il reste quand même des beaux exemples, comme le fort de Chambly, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Alors, ça donne une idée, hein?
Oui. Mais c'était un travail considérable quand on y pense aujourd'hui.
C'est incroyable. Alors, on arrive à la conclusion de ces deux heures sur la science en Nouvelle-France avec nos trois experts invités. Donc, Serge Bouchard, qu'on vient d'entendre, anthropologue, spécialiste des peuples autochtones, animateur à Radio-Canada, dont l'émission de Remarquables oubliés à la radio chez nous. Hein. Oui. Serge, donc vous êtes ici avec moi à Montréal. Denis Vaugeois, historien et éditeur dans notre studio du Parlement de Québec, et Yves Gingras, historien et sociologue des sciences à l'Université du Québec à Montréal, mais qui est en studio à Strasbourg. Serge Bouchard, on revient donc à cette idée, la science en Nouvelle-France. Parmi les remarquables oubliés, est-ce qu'il n'y a pas des scientifiques, finalement?
Ben, plusieurs sont des scientifiques. Je pensais tout au long, là, j'écoutais. Je pense à Pierre-Esprit Radisson. Pierre-Esprit Radisson a survécu, est mort à 75 ans. C'est son esprit scientifique. C'était un aventurier. Oui. Il prenait des risques, mais toujours calculés. C'était un observateur. D'ailleurs, en Angleterre, il faisait partie où il se rapportait. Et il espérait d'ailleurs être considéré comme quelqu'un de sérieux, comme ça. Mais s'il a survécu, et tous les gens qui survivaient de ces remarquables oubliés, c'est parce qu'ils avaient quelque part l'esprit. Ils avaient l'esprit esprits mythiques, c'était des fous, hein, c'est souvent.
Oui, oui.
Mais ils avaient le sens de l'organisation, le sens de l'observation et le sens du dialogue. Ils apprenaient, ils apprenaient, ils apprenaient. C'était redoutable. Alors, pendant deux heures, on parlait de la Nouvelle-France, Denis Vaugeois l'a mentionné plus tôt. C'était vaste, c'était immense, c'était l'Amérique septentrionale.
Ben oui,
la Nouvelle-France,
oui.
C'était immense. Le défi pour l'esprit, pour le corps, c'était grand. Et moi, j'ai la nostalgie. J'aurais aimé vivre à l'époque où il y avait toutes ces choses à découvrir et
mais
traverser
oui,
l'Amérique.
Pu faire une émission sur Serge Bouchard,
aller
remarquable.
Tomber en amour en Oregon. Moi, j'en aurais cartographié des rivières pour ça.
Ah oui, oui. Denis Vaugeois, à Québec, quand je vous ai parlé du projet de faire deux heures sur la science en Nouvelle-France, vous m'avez dit « Ah, oh, c'est intéressant comme angle, on n'en parle pas beaucoup. » Parce qu'effectivement, la Nouvelle-France, ça n'a pas été fait seulement par des coureurs de bois, des défricheurs, ça a été fait aussi par des intellectuels, par des cerveaux, par des scientifiques, non?
Oui, oui, absolument. C'est vrai que j'ai réagi comme ça, parce que quel beau sujet, quelle belle façon d'approcher la Nouvelle-France. Parce qu'on s'imagine toujours que c'est des primitifs, des coureurs des bois, c'est des aventuriers.
Un peu rustres, oui.
Mais pour survivre, tant les Indiens que les Blancs ont besoin de beaucoup de science, beaucoup de connaissances et beaucoup de science. Ils doivent savoir faire les choses. Et Yves Gingras, tout à l'heure, a rappelé que très tôt, par exemple, les Jésuites prennent des initiatives. On peut penser ce qu'on voudra des Jésuites, il reste qu'ils ont contribué ici à la formation de plein de gens. Et quand ils voyaient quelqu'un qui avait du talent, je me rappelle une espèce de Boutet de Saint-Germain là, que j'ai découvert en faisant l'Atlas. Bien, Boutet de Saint-Germain, c'est un petit génie. Et puis là, on lui dit, ben toi, tu vas enseigner ici, toi, tu vas enseigner ça, toi, tu vas enseigner ça. Et ils forment des gens sur place. Et ça donne des Louis Joliette, des Pierre Lemoyne d'Iberville, ça donne des Jean-Baptiste Franklin.
Mais il faut dire qu'à l'époque, la réforme de l'éducation, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui.
Peut-être moins de consultations.
Donc, effectivement, des savants qui ont eux aussi fabriqué, inventé, contribué à faire la Nouvelle-France. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a beaucoup dit, hein, beaucoup en relation avec les Autochtones. Donc, c'était pas toujours la guerre, Serge Bouchard, entre les deux.
Au contraire, puis on le mentionnait un peu plus tôt, la collaboration entre les Français, on parle de Nouvelle-France, entre les Français et ultimement les Canadiens, puis qu'on va appeler les Canadiens et les Canadiens français, la collaboration est très, très étroite. Et jusqu'au Pacifique, ça, c'est dans la mémoire de l'Amérique du Nord, une collaboration d'échange d'informations, on travaille ensemble. Puis c'est bon de dire, hein, les Jésuites, c'est deux visages. Il y a leur dossier noir, tu sais, on peut en dire. Mais au contraire, on peut aussi dire qu'ils avaient cet esprit, hein, jésuite, de curiosité.
Les relations
de faire
des jésuites,
liens,
quand même.
Ben, ouais. Les relations des jésuites. Ils étaient en Chine, ils étaient ici. D'ailleurs, ceux qui étaient en Chine et ceux qui étaient ici, ils se parlaient comparer.
Ouais.
Non, c'était considérable ce que les jésuites pouvaient faire.
J'ajoute quelque chose.
Oui, de niveau joie à Québec.
Du ginseng, tout à l'heure, au ginseng. Mais c'est le père Lafitau qui va faire connaître le ginseng. Et grâce à une correspondance qu'il entretient avec un de ses confrères qui était auprès de l'empereur chinois.
Voilà, c'est ça.
Yves Gingras, Strasbourg, justement, quand on parle de ces échanges, de la place des jésuites, d'une science qui se constitue en Nouvelle-France avec ces gens-là, effectivement, c'est quand même une page importante du début de l'histoire des sciences au Québec. Vous avez fait un livre là-dessus il y a quelques années, Histoire des sciences au Québec. C'est le début de l'histoire de la science au Québec, non?
Très clairement. C'est pour ça qu'on a deux des 12 chapitres qui portent sur la Nouvelle-France. Mm-hmm. Parce que tout l'enseignement de l'astronomie, on a enseigné justement dans les collèges des jésuites la théorie astronomique de Copernic, on enseignait la théorie de Ptolémée, de Riccioli, c'est l'enseignement typique des jésuites. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être paraître surprenant, mais je dirais que puisqu'on parle de science en Nouvelle-France et qu'on a, les années-lumière, quand on parle de science, souvent on a une certaine définition, ce qui me frappe dans tout ça, c'est quand même qu'il faut garder une certaine différence entre connaissance et science. Pourquoi? Parce que ce qui est frappant dans la rencontre des deux mondes, la découverte de l'Amérique, c'est la codification du savoir. Ces gens-là avaient une chose qu'on oublie, l'écriture.
Oui.
La codification des langues indiennes a été aussi faite par les jésuites. Et lorsqu'on a fait des cartographies explicites, on a rendu codifiables par l'écriture des savoirs qui, autrement, peuvent justement se perdre dans l'oral ou se perdre comme on a perdu, justement, la première connaissance de l'Aneda après le premier des voyages. Et il a fallu la redécouvrir. Donc, il y avait un déséquilibre du pouvoir entre du côté des Autochtones versus les Européens, c'est parce que depuis environ 2000 ans, en Europe, il y avait codifié une chose qui est simple, qui s'appelle l'écriture, mais laquelle la science comme discours construit n'existe pas.
Un petit mot, Yves, vraiment très rapidement sur la science qui se constitue à l'époque, au XVIIe siècle, Au départ, à l'époque de Québec, Fondation de Québec 1608, il n'y a pas beaucoup d'institutions, d'académies, de publications scientifiques, mais ça va se faire dans les années qui vont suivre, hein, en deux mots.
Oui, parce que quand on a parlé des collaborateurs européens, c'est en 1660 qu'on crée en France l'Académie des sciences. Donc, ceux qui vont envoyer des documents à l'Académie des sciences, qui vont être publiés sur le castor, l'anatomie du castor, qui va paraître dans les revues savantes de l'époque, ça émerge en 1665, la première revue savante, et c'est dans ces revues-là qu'on va retrouver justement des documents de Jean-François Gautier, qui d'ailleurs s'intéressait à les instruments. Vous savez qu'en France, lorsqu'on utilisait des thermomètres, à l'époque, étaient des thermomètres à l'alcool, et Jean-François Gautier, qui les amenait ici, découvrait qu'à moins 25, ces thermomètres-là sont gelés, donc ils ne fonctionnent plus.
Merci. Alors, une petite minute, toute petite, pour conclure avec mes trois invités. Je vais faire le tour rapide. Denis Vaugeois, en studio à Québec. Une image à retenir de cette époque, sous l'angle un peu de la science, de la technologie, une image, Denis Vaugeois?
Ah ben moi, j'aime l'idée de l'échange, des échanges entre ceux qui sont ici puis ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent ont besoin pour s'adapter, ont besoin de ceux qui sont déjà là. Et dans l'autre sens, il y a des échanges aussi qui se font. Normalement, les Amérindiens auraient dû profiter beaucoup plus de l'arrivée des Européens. Hélas, les maladies ont vraiment empêché ce transfert-là de se faire correctement.
Merci, Denis Vaugeois. Serge Bouchard, ici en studio à Montréal. Une image?
Ben, cette idée que la science universelle s'enrichit des ethnosciences. Alors, pour ne pas avoir l'esprit fermé, tous les peuples et toutes les sociétés pouvaient contribuer, ont contribué, et l'Amérique est un bel exemple. Il reste des mystères et des sujets qui ne sont pas résolus. Moi, je m'intéresserais et j'encourage la recherche sur les testicules de castor.
Castor, oui.
Ma réponse,
et
j'aimerais ça l'avoir.
Et vous, Yves Gingras, donc sociologue et historien des sciences à l'Université du Québec à Montréal, mais en studio à Strasbourg, une image de cette époque de la Nouvelle-France?
Oui, je pense que celle de l'échange s'impose, mais étant moins optimiste, je dirais qu'il s'agissait quand même d'un échange inégal, pour reprendre un vieux thème des années 60 de Samiramine. Donc oui, l'échange était bien, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il était inégal, ce qui explique le présent.
Merci beaucoup, Yves, à Strasbourg. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale sur la science en Nouvelle-France, une émission réalisée par Dominique Lapointe, avec à la technique à Montréal, Christian Etu, à Québec, Stéphane Michaud, à Paris, Philippe Palares, et à Strasbourg, Pascal Doumange. Les journalistes ici, Sophie-André Blondin, Étienne Leblanc et Chantal Srivastava. Journaliste et collaborateur à Paris, Mathieu Vidard et son équipe. Journaliste au site internet, Nicolas Wenberg. À la discothèque Monite 1, à la recherche, Gaël Lucia Berdou. Un merci tout spécial à nos trois invités, experts, commentateurs, l'historien éditeur Denis Vaugeois dans notre studio de Québec, l'anthropologue Serge Bouchard en studio avec nous à Montréal, et notre historien des sciences et chroniqueur Yves Gingras en studio à Strasbourg, dans l'Est de la France. Merci à vous trois. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. À la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.